Bon, on va peut-être commencer si vous voulez. Ben, merci beaucoup d'avoir pris sur votre vendredi en fin de journée pour venir m'écouter présenter ce livre. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à l'écrire. J'avais d'abord eu un premier choc en lisant il y a très longtemps le livre de Raymond Tournoux, Pétain de Gaulle. Et j'ai toujours considéré ce sujet passionnant. C'est un sujet qui m'a beaucoup fait peur aussi, tant il a une multitude de portes d'entrée. Et puis un jour, j'étais à mon bureau à l'Élysée, et puis je trouve sur ma table un ordinateur, et il était barré de « écris-le ». C'est-à-dire les gens, à force, je leur en parlais tout le temps, et je n'étais jamais passé à l'acte. Et une fois que j'ai trouvé cet ordinateur sur la table, j'ai fini par y aller. Il y a plein de portes d'entrée. Moi, je n'ai pas voulu en faire, en tout cas, un livre à code, faire un exercice consistant à dire aujourd'hui qui ressemble à De Gaulle, qui ressemble à Pétain. Je ne voulais pas non plus partir des logiques beaucoup trop manichéennes d'aujourd'hui, où on a fini par, de proche en proche, à faire des assimilations. Il y a aussi dans l'image Pétain égale Hitler, et dans l'image du général De Gaulle, quelque chose qui lui fait perdre aussi cette dimension humaine. Il y a une multitude de portes d'entrée sur ce sujet. D'abord, c'est une incroyable histoire de destin croisé. Une rencontre 30 ans avant, 1912, Pétain est à quelques jours de la, quelques années de la retraite. Le général de Gaulle, le jeune de Gaulle sort de Saint-Cyr et va se retrouver par hasard à Arras dans ce régiment. Il va y avoir une histoire extrêmement forte entre eux qui va se nouer, une estime bilatérale. Puis les années 30 où vont se construire ce passage qui va les conduire à passer à l'acte en 40 alors que tout le monde s'effondre, eux qui ont été proches puis se sont éloignés, j'y reviendrai, vont passer à l'acte. Et puis ensuite ils vont se condamner l'un et l'autre à mort, Pétain va priver De Gaulle de sa nationalité française et ils vont finir par symboliser quelque part ces deux France qui s'affrontent en 40 et qui probablement s'affrontent encore aujourd'hui. Au-delà de cet incroyable roman français, il y a aussi une extraordinaire leçon de politique. Comment se construit le parcours qui va conduire deux militaires à devenir des hommes politiques? Comment on passe à l'acte? Comment on assume le pouvoir? Comment c'est ce que construit l'erreur en politique? Comment se construit un parcours de légitimité, Pétain d'une part, De Gaulle d'autre part? C'est tout à fait impressionnant. Et là, effectivement, l'expérience que j'ai pu avoir comme secrétaire général de l'Élysée fait que j'ai pu décoder peut-être un petit peu différemment que des historiens de profession cette logique qu'on retrouve dans ce parcours croisé des deux hommes. Et puis, deux choses bien sûr, le miroir par rapport à l'actualité, ce qui reste des deux états d'esprit, cette tentation du renoncement qui peut exister dans la société française face aux difficultés, cette capacité de redressement qu'on retrouve avec le général de Gaulle et qu'on retrouve aussi dans notre histoire, pas seulement avec lui. Et puis, au bout du bout des choses, je pense qu'à travers le parcours de ces deux hommes, d'abord proches puis diamétralement opposés, il y a quand même des leçons personnelles, j'y reviendrai en conclusion, qui s'adressent à chacun de nous. Et c'est au terme de ce parcours, j'ai mis des années à l'écrire, ce que je garde de ce travail. Alors d'abord, un grand roman français. Aucun romancier ne peut, à mon avis, imaginer une telle histoire. 1912, le colonel Pétain, un personnage incroyablement charismatique, il est à quelques semaines, à quelques mois de la retraite. Il est très mal vu par l'état-major, puisque contrairement à l'état-major qui, après la défaite de 1870, pousse à une doctrine offensive, lui a compris que la guerre qui s'annonçait serait une guerre industrielle, qu'il résume par la phrase « le feu tue ». Il est mal vu à cause de sa doctrine. Il est mal vu aussi parce qu'il refuse, au moment de l'affaire des fiches de la séparation de l'Église et de l'État, de dénoncer ceux qui vont à la messe, avec cette fameuse phrase « me tenant au premier rang, je ne saurais dire qui était derrière à la messe ». Donc un caractère extrêmement trempé et quelqu'un qui, au fond, considère qu'il va bientôt prendre sa retraite, un peu tristement, dans son village du Nord. Débarque un personnage, donc un jeune sorti de Saint-Cyr, à la fois très très proche et très différent. Une culture exceptionnelle héritée de son père, une vision, un talent tout à fait formidable, des défauts de caractère aussi, avec cette arrogance de la jeunesse quand on a ces qualités-là. Et là, il y a un vrai choc, une vraie rencontre, puisque Pétain, qui n'aime personne, qui est très dure, qui a une enfance extraordinairement difficile, une vie amoureuse très très complexe. Il a été à la fois un extraordinaire séducteur, et les femmes qu'il a aimées se sont toujours refusées à lui, ont refusé de l'épouser. Donc caractère extrêmement complexe, extrêmement dur, extrêmement secret, va remarquer De Gaulle. Les notations qu'il donne aux jeunes sous-lieutenants puis lieutenants sont vraiment intéressantes, surtout quand on les compare à celui qui va être le général Giraud, qui a aussi été sous les ordres de Pétain. Sur De Gaulle, il dit « très intelligent, aime son métier avec passion, digne de tous les éloges ». Pour Giraud, et c'est très intéressant quand on voit la suite, il dira « indécis, lent, peu de personnalité, peu travailleur, manque d'entrain et une confiance en soi qui ne paraît pas justifiée ». Tout est dit déjà. Mais de leur rencontre, malgré cette estime très très forte, il y a déjà toutes les différences entre les deux personnages qui sont en germe avec un rapport qui est très asymétrique. Pétain aime De Gaulle, l'admire, il voit très vite qu'il est probablement le fils qu'il aurait voulu avoir, peut-être l'homme qu'il aurait voulu être. Il perçoit cette différence de culture entre eux, de vision. Il voit aussi qu'il partage en revanche la même aptitude au commandement, et il sait que De Gaulle va souffrir très probablement des mêmes difficultés relationnelles avec un milieu militaire beaucoup trop conformiste pour l'un et pour l'autre. Mais dans l'autre sens, il n'y a pas du tout le même sentiment chez De Gaulle. Le jeune De Gaulle admire le militaire tout à fait hors norme qu'est Pétain, mais n'est fondamentalement pas d'accord avec lui déjà sur la doctrine militaire. De Gaulle se trompe sur la Première Guerre mondiale, mais reste fondamentalement inoffensif. Et quelque part, par le caractère et par la doctrine, il est beaucoup plus un disciple de Foch, qui est l'ennemi juré du maréchal Pétain, qu'un disciple de Pétain, même si, dans les années 20, ils vont se rapprocher à la fois par estime et conjonction d'intérêts. Le moment le plus important aussi dans ce qui m'a intéressé chez Pétain, c'est au fond de comprendre comment on passe de Verdun à Vichy. Et là, évidemment, tout se noue lors de la première guerre mondiale. Pétain a vu juste sur la doctrine, alors que la doctrine offensive et que les gens se font massacrer, d'ailleurs des deux côtés, par cette guerre qui est une guerre industrielle. Quand lui est à la tête de ses troupes, ça se passe beaucoup mieux que pour les autres, et très vite il se révèle. Ce qui fait que quand les Allemands décident d'attaquer à Verdun avec une idée très précise, qui consiste à dire « les Français résistent, mais jamais ils ne lâcheront » ce lieu symbolique de Verdun, et donc on va les saigner jusqu'à qu'ils soient absolument incapables de continuer la guerre, il n'y a qu'une personne qu'on peut appeler, et c'est Pétain qu'on appelle. Joffre se décide à appeler Pétain, il est d'ailleurs introuvable pour l'anecdote, et on finit, Sérigny, son fidèle, finit par le retrouver à l'hôtel de la gare du Nord, où il est encore avec une de ses énièmes conquêtes. Il va néanmoins à Verdun, révéler toutes ses qualités, à la fois d'organisateur, de chef humain, c'est-à-dire qui privilégie l'organisation, le matériel sur la chair à canon, ce qui fait que restera, et c'est là que se noue le drame, le malentendu, la tragédie de la Première Guerre mondiale, une part de ce lien entre les Français et Pétain. C'était tellement dur, Verdun, qu'il fallait faire le tourniquet, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser les gens trop longtemps sur le front, ce qui fait que plus de 2 millions de soldats sont passés par Verdun, et ils ont tous gardé de Pétain cette image d'un chef humain qui avait su arrêter les Allemands. Et 2 millions démultipliés dans chacune des familles, ça explique que dans les années 30, le mythe du maréchal va monter extrêmement fort. Pétain est également formidable. En 17, quand il arrive à briser les mutineries avec beaucoup d'intelligence. L'armée française est en danger mortel si on ne brise pas les mutineries. Il va à la fois comprendre que ce n'est pas seulement une question politique, ce n'est pas seulement les communistes qui sont à l'œuvre, mais que les gens n'en peuvent plus de ces attaques qui débouchent sur rien. Donc il va à la fois humaniser les conditions de vie, il va sortir les plus virulents en leur donnant des permissions, et il va faire les exécutions et les fusillés qu'il faut pour briser ce mouvement. Donc là, on est probablement au zénith de ce que Pétain a pu apporter. Et c'est là qu'il se révèle et que tout se brise et qu'on perçoit déjà le Pétain de Vichy. En mars 18, avant que les Américains n'arrivent, les Allemands n'ont plus qu'un front et lancent toutes leurs forces dans la bataille. Et là, Pétain craque. Il est convaincu que les Allemands vont écraser les Anglais, avec d'abord, puis se retourner contre les troupes françaises et les écraser. Il pense qu'à une chose, c'est lâcher les Anglais, couvrir Paris. Et à la fois Haig, mais également Clémenceau et Poincaré sont stupéfaits de voir la façon dont ils s'effritent face à la peur et sont obligés à ce moment-là de faire complètement un autre choix, le remplacer par Foch. Foch qui a des qualités qui sont diamétralement différentes de celles de Pétain et qui va être le vainqueur de la Grande Guerre, d'où une frustration absolument terrible pour lui. Il est le sauveur de Verdun, il est sauveur de la France au moment des grandes mutineries, mais le vainqueur, c'est un autre. C'est Foch qui a des qualités en plus qui sont totalement différentes des siennes. Et cette frustration, elle est d'autant plus violente qu'en plus, il y a un moment ultra paradoxal en novembre 1918. Alors que Foch dit « on arrête les frais, on signe l'armistice en terre française », Pétain a l'intuition qu'il faut passer le Rhin et aller écraser les Allemands en Allemagne et qu'il faut un Sedan, ce qu'il appelle un Sedan allemand. Et ça, à la fois le pouvoir politique et Foch le lui refusent. Et quand il verra dans les années 30 à quel point Hitler va utiliser la thèse que l'armée allemande en fait n'a pas été vaincue et que c'est les politiques allemands qui ont trahi le pays, il va encore accumuler de la frustration parce qu'il a l'impression que non seulement l'histoire était injuste avec lui, puisque c'est Foch le vainqueur, mais qu'en plus c'est lui qui avait raison. D'où ce paradoxe absolument terrible, cet homme qui est couvert de gloire, maréchal de France, qui finit par épouser la femme qui s'était refusée à lui 20 ans avant, qui pourrait se retirer dans sa maison de Villeneuve-Loubet et donc vivre comme un paysan qui a les moyens maintenant de vivre avec un mode de vie bourgeois, tranquille et avec tous les lauriers de sa gloire, va conserver en lui cette frustration majeure qui ne va cesser de l'habiter dans les années 30. Ça, c'est la thèse de mon livre. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse d'un Pétain âgé qui ne maîtrise pas son destin, qui est manipulé par les uns et par les autres, par Laval, par un entourage. Je crois que de cette frustration va se succéder cette volonté d'avoir une forme de revanche et de construire ce qui va être sa revanche en passant du terrain militaire au terrain politique. Je vais y revenir. D'où cette phrase à la fin de mon chapitre sur Verdun, « Pas de Vichy sans Verdun ». Pour De Gaulle, c'est un peu l'inverse. C'est un jeune militaire, il pensait se couvrir de gloire comme tant d'autres. Il est blessé, fait prisonnier à Verdun en 1916. Et pour lui, la guerre est une terrible déception. Il va chercher à s'évader, il n'y arrivera pas. Et donc, alors que tant d'autres se sont couverts de gloire, pour lui, tout est à faire. Et ce jeune homme extraordinairement brillant commence à rencontrer les réalités de la vie. Les choses sont parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquées qu'on l'imagine. Mais enfin, rien que de très classique pour le jeune De Gaulle. En revanche, frustration absolument terrible pour celui qui a largement dépassé les 60 ans, Pétain. C'est la deuxième phase de leur relation, c'est cette phase de proximité. Proximité-rupture. De Gaulle cherche un mentor pour rattraper le temps perdu. Évidemment, c'est Pétain. Pétain qui ne sait pas écrire, mais qui a des idées très précises sur ce qu'il veut écrire, cherche une plume avec toujours la même idée. Il veut accumuler les honneurs et donc il veut rentrer à l'Académie française pour y succéder à son grand rival Foch qui vient de mourir. Et donc, pour lui, d'évidence, il se souvient de ce jeune homme qu'il avait d'ailleurs jamais perdu de vue et il le recrute à son cabinet comme plume. Et là, il y a une relation extrêmement forte entre eux. Il lui demande d'écrire ce qui doit être la grande œuvre de Pétain, l'histoire de l'armée française. Alors que dans le cabinet du maréchal Pétain, les colonels sont regroupés à trois par bureau, le capitaine de Gaulle a son propre bureau où il est traité comme une personnalité complètement à part. Là, les relations vont toucher à deux moments leur point zénital. Évidemment, de Gaulle, qui a un caractère impossible, se fait remarquer à l'école de guerre. Il se fait piéger lors d'une épreuve finale et il sort dans le dernier tiers. Fait absolument invraisemblable, Pétain, maréchal de France, en réalité patron de l'armée française, convoque les responsables, les directeurs de l'école de guerre, en leur disant maintenant, c'est pas possible, vous revoyez le classement de Gaulle. Et le classement sera évidemment effectivement revu, puisqu'il passera du dernier tiers au deuxième tiers. Autre moment invraisemblable, 1927, donc 2 ans après l'épisode de l'école de guerre, avril 1927, non, l'école de guerre c'est 22, pardon, avril 1927, Pétain décide de donner sa revanche à De Gaulle. Et là, on a le point absolument asymptotique, excessif de leur relation. Il convoque l'ensemble des élèves et des professeurs de l'école de guerre, arrive maréchal de France, Gamblan, Képi, et se met au premier rang pour obliger ceux qui ont mal noté De Gaulle à écouter les 3 conférences du général, de celui qui sera le général De Gaulle, à l'époque encore capitaine De Gaulle, sur l'art de commander. Ça deviendra la trame qui sera revue par lui du fil de l'épée. Donc un lien absolument incroyable avec l'affirmation chez Pétain qui n'aime personne, au fond qu'il a trouvé le fils, le futur généralissime de l'armée française. Alors, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est quand on atteint les points les plus hauts d'une relation qu'elle se casse, et qu'elle se casse pour de vraies raisons. En apparence, c'est la querelle d'auteur qui les sépare. Pétain a énormément aimé les premiers chapitres de De Gaulle, n'a pas aimé le dernier sur la Première Guerre mondiale. Il le trouve trop technique, pas assez humain, et donc demande à un autre officier qui s'appelle Audet de revoir le livre. De Gaulle ne va pas l'accepter, va faire une crise extrêmement majeure sur le thème « c'est pas possible, soit c'est moi pour tout, soit vous refaites tout ». Et Pétain, qui a encore de l'attachement pour De Gaulle, décide de faire autre chose, il prend le manuscrit, le met au fond d'un coffre. C'est un autre de ses proches, le général Lord, qui va lui écrire un petit livre sur la bataille de Verdun qui lui permettra de toute façon de rentrer à l'Académie française où il aurait, livre écrit ou pas écrit, fini par rentrer compte tenu de cette aura invraisemblable qui est la sienne dans les années 30. Deuxième épisode de cette querelle d'auteur, De Gaulle qui vit une période très 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 difficile dans les années 30. Il a perdu pour une part la protection du maréchal Pétain, ses adversaires qui détestent son attitude hautaine, son intelligence supérieure, etc. lui font bien payer les choses. Et donc on lui propose d'écrire un livre sur l'histoire de l'armée française. À ce moment-là, il se souvient de ce manuscrit et écrit « La France et son armée ». Juste avant de le publier, il se rend compte qu'il a quand même une petite difficulté avec le maréchal Pétain, lui envoie un projet de dédicace, aller-retour dans les dédicaces, la rupture est extrêmement violente entre eux parce que Pétain n'obtient pas la dédicace qu'il veut, et à ce moment-là, leur relation personnelle se brise et devient d'une violence inouïe, en tout cas du côté de Pétain. On est en 40. Le pays est en train de s'effondrer des responsables britanniques viennent voir Pétain pour lui demander qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous voyez, et là, plutôt que de parler de la situation française pour comprendre à quel point cette affaire de querelle d'auteur a été violente chez eux, au lieu de parler de tout ça, Pétain explique que c'est scandaleux que De Gaulle rentre dans le gouvernement puisqu'il vient de rentrer dans le gouvernement Reynaud, et il dit, vous vous rendez compte, cet ingrat, cet orgueilleux, moi qui ai tout fait pour lui, et les gens sont stupéfaits, même Reynaud aura droit à tout ça. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort à travers cette querelle d'auteur. Pour Pétain, c'est la trahison du fils. Pour De Gaulle, c'est complètement autre chose. Il est déjà passé à autre chose. Parce qu'en fait, ils se sont séparés dans ces années 30, tellement structurantes pour l'un et l'autre. Ils vont faire des parcours complètement divergents. Pétain, probablement, et c'est vrai pour l'époque, sort de la Première Guerre mondiale plutôt en général républicain. Il va comprendre que néanmoins l'avenir du pays passe par la chose politique. En plus, il est ivre d'orgueil, ivre de reconnaissance, donc il finira par devenir ministre juste après les événements du 6 février 34 dans le cabinet d'Oumergue. Et là, il va être perméable. Alors, jusqu'à quel niveau aux idées anti-républicaines, aux idées maurrassiennes, va rencontrer Laval, va commencer à nouer une relation qui est une relation qui va le conduire petit à petit, de proche en proche, à passer de général républicain à quelqu'un qui est convaincu que la République, Troisième République, voire la République en général, est un danger pour la France. De Gaulle va faire le parcours exactement inverse. Plutôt républicain, famille très monarchiste, cléricale, va lui aussi comprendre, par son passage au SGDN, à quel point les questions de défense sont indissociables des questions économiques, sont indissociables des questions politiques. Il va aussi comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire la distinction entre la grande tradition historique monarchiste et la tradition républicaine, et au fond que tout ça est un tout, et va devenir fondamentalement républicain au fur et à mesure de ce parcours, qui est une traversée du désert terrible pour lui. Il ne faut pas oublier qu'en 40, De Gaulle a presque 50 ans et dans ses standards n'a rien fait. Donc ces années sont des années difficiles, mais c'est des années où sa vision du pays se forge. Et également, l'un et l'autre vont s'affronter sur la question de la préparation de la guerre. Alors, on a beaucoup caricaturé les deux choses. On a dit, on a toujours assimilé Pétain et la ligne Maginot. Ce qui est terrible, la réalité est encore plus terrible. Il n'a jamais été convaincu de l'efficacité de la ligne Maginot. Lui était pour aussi des forces offensives. De Gaulle était pour les chars, hein, c'est vers l'armée de Médier, et Pétain était pour l'aviation. Il considérait que ça servait à rien de toute façon de couvrir complètement par la ligne Maginot la Belgique et qu'il fallait se doter d'armes offensives. Mais ce qui est terrible chez lui, c'est que plutôt avec son prestige que d'assumer cette réalité et de dire à un pays qui était tourmenté par le pacifisme à cause de la saignée de la Première Guerre mondiale qu'il fallait néanmoins se doter d'armes offensives, il préfère ne rien dire. Il préfère se caler sur la doctrine défensive qui est celle qui est à l'état-major et qui correspond à ce que veut le pays à ce moment-là. Il va même jusqu'à préfacer le livre de Chauvignon où on dit qu'une offensive est strictement impossible et que les chars se feraient piquer s'ils passaient par les Ardennes. Donc il va contre ses convictions profondes et bascule dans ce qui va être la caractéristique psychologique du Pétain qui aborde les années 40, c'est-à-dire une ambition, une vanité, tellement forte qu'elle dépasse fondamentalement ceux qui pensent. Et De Gaulle sait très bien que Pétain n'est pas du tout convaincu par la doctrine d'offensive et qu'il a des idées beaucoup plus précises que ça, mais la rupture est d'autant plus forte vis-à-vis de lui, puisque alors que lui se bat désespérément pour convaincre le pays qu'il faut armer, qu'il faut des forces cuirassées offensives, il voit que son ancien chef, lui, fait un autre choix. Ce qui fait qu'au terme de ce parcours assez passionnant des années 30, Pétain est passé du général républicain à quelqu'un convaincu qu'il faut mettre en place un régime contre-révolutionnaire. Il a accepté de rentrer dans des logiques, j'essaie de le décrire dans le livre parce que je suis vraiment contre la thèse du vieillard qui ne sait pas ce qu'il fait. Il a fait un parcours politique avec toutes les campagnes, c'est Pétain qu'il nous faut, les sondages, quel dictateur pour la France, où on retrouve dans les années, à la fin des années 30, premier Pétain, deuxième Laval, enfin tout un programme pour la suite. Il écrit des articles à des moments bien, bien précis pour donner l'impression qu'il est retiré de toute chose, mais qu'il est un homme de rassemblement. Bref, il fait un vrai parcours politique jusqu'à se mettre en réserve à l'ambassade de France en Espagne, où il renoue des liens avec Franco, et en réalité est en attente, comme il le disait lui-même, ils auront besoin de moi le 15 mai, effectivement la France a besoin de lui le 15 mai, Reynaud l'appelle à peu près dans la zone. Donc Pétain se retrouve confronté effectivement aux maladies de l'âge, mais c'est pas celle qu'on pense. Dans sa famille, on vit jusqu'à 100 ans, donc physiquement, même s'il a des jours avec et des jours sans, c'est quelqu'un de solide. En revanche, il est taraudé par la vanité, par l'ambition et par l'indifférence, alors que De Gaulle a fait un parcours inverse. Il devient de raison républicain, il est convaincu qu'il faut complètement changer la doctrine de l'armée, et au fond, ce jeune, probablement imbuvable, parce que incroyablement conscient de ce qu'il est, va finir par avoir conscience à travers cette traversée du désert, les épreuves, la naissance de sa fille trisomique, le drame de son frère qui restera paralysé, toute cette solitude dans ces années 30, va comprendre qu'au fond, l'important n'est pas de se servir, mais de servir. Et donc il aborde ce grand tournant des années 40, probablement complètement transformé. Et quand on réfléchit à De Gaulle, il y a des choses qui me frappent. Il est le seul dans notre histoire à rencontrer l'histoire deux fois, 40-58. Il est le seul à laisser la France plus grande à chaque fois. Et vis-à-vis de son grand rival, Napoléon, il y a quand même une grande différence. Lui ne s'est jamais servi. Et pour moi, dans les années 30, servi du pouvoir. Dans les années 30, c'est là que se noue cette qualité morale absolument exceptionnelle de ce qui est déjà le général de Gaulle. Donc on arrive après ce que j'appelle ce grand roman français et puis ce parcours initiatique à la leçon de politique, avec un passage à l'acte invraisemblable quand on l'imagine. Tout le monde s'effondre, ceux qu'on attendait, Reynaud bien sûr, Mandel, le bras droit de Clémenceau, celui qui reste solide dans l'adversité. Bref, tout s'effondre et reste face à face ces deux militaires complètement inconnus de 1912. L'un et l'autre vont passer à l'acte avec des doctrines et une audace inouïe. 17 juin, Pétain finit par laminer Reynaud, qui craque, démissionne et lui laisse le pouvoir. C'est l'appel du 17 juin, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je fais don de ma personne à la France pour atténuer ses souffrances. Donc on voit bien, tout Vichy est déjà là le 17 juin. Et de Gaulle, ben, c'est diamétralement opposé, c'est pas le père, c'est le combattant. Oui, la guerre ne fait que commencer, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Donc 17 juin, 18 juin, deux passages à l'acte, absolument inouï, et dans des difficultés morales terribles pour le général de Gaulle. Il faut à 50 ans qu'il rompe avec tout, avec la France, qu'il quitte le territoire, il laisse sa famille sans savoir ce qu'elle va devenir, il survole le village de Pimpon où sa mère est en train de mourir, et après une nuit très très difficile où il hésite, il va lui aussi passer le pas. Donc premier exercice passionnant en termes de politique, pourquoi les uns ou les autres passent à l'acte, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte. Et puis ensuite, malheureusement, ce qui fait le fond de la politique retrouve ses droits. Malheureusement pour Pétain, qui va là s'enfoncer dans une tragédie absolument terrible. D'abord, c'est la vision des choses. Et là, il y a deux visions diamétralement opposées. Pétain, qui n'a pas la culture, qui est un homme qui a été formé au XIXe siècle, est convaincu au fond qu'on est dans la troisième manche de la guerre franco-allemande. On a perdu en 1970, on a gagné en 1918, on repère là, et que bon an, mal an, c'est la même chose, c'est la France contre l'Allemagne, arbitrée par l'Angleterre une fois de plus. Et avec des États-Unis lointains auxquels ils considèrent que bientôt ils viendront peut-être changer la donne. De Gaulle comprend au contraire la réalité de cette guerre, une guerre tout à fait particulière, qui est en réalité, l'Allemagne n'a rien à voir, le pouvoir nazi n'a rien à voir avec l'Allemagne. Il comprend très bien, comme le dira Churchill dans son discours aux communes le 18 juin, que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la civilisation judéo-chrétienne et qu'on n'est pas sur un face-à-face entre la France et l'Allemagne, mais d'un face-à-face de civilisation entre la démocratie et la civilisation judéo-chrétienne et un ordre barbare qui est l'ordre nazi. Churchill le dira magnifiquement lui aussi son 18 juin, avant, comme toujours avec lui, de partir faire sa sieste. Et donc là, il y a quelque chose qui est fondamental et qui explique la différence de parcours désormais entre l'un et l'autre. Pétain va s'enfoncer dans cette erreur en considérant qu'on peut négocier, et il le dit, c'est en soldat que me suis adressé à nos vainqueurs, c'est aussi dans son appel du 17 juin, et a l'impression qu'il peut protéger les Français en négociant avec le pouvoir qui croit être le pouvoir allemand, et en fait, de proche en proche, va devenir complice des nazis, parce que ce que comprend très bien de Gaulle, c'est qu'on n'est pas face à un ordre national avec lequel on peut discuter, mais qu'on est nécessairement complice, instrumentalisé, et en fait détruit par le contact, et que la seule façon de dialoguer, c'est la confrontation sans aucune concession. Et là se nouent fondamentalement les deux parcours. Le drame de Vichy, il se résume à ça, avec une anecdote. Je suis un peu long, donc je vais passer un peu vite sur ça, mais on peut y revenir dans les questions. Au moment des fusillés de Chateaubriand, on présente au ministre de l'Intérieur une liste de 50 noms. Il la regarde et il dit « Ah ça, c'est pas possible, il y a beaucoup trop d'anciens combattants ». On lui représente une liste dans laquelle il y a plus ou quasiment plus d'anciens combattants. Il y a des communistes, il y a Guy Moquet, et il la laisse passer. Et son collègue lui dit, dit à Pucheux, Romier lui dit, son collègue au gouvernement Pétain, mais est-ce que tu te rends compte que désormais tu es leur complice et qu'il n'y a pas de différence entre toi et les nazis qui ont fusillé ? Et tout le drame de Vichy est là, c'est-à-dire c'est dans la conviction qu'on peut, par le compromis, protéger. C'est la même logique dans les rafles du Valdiv, la police française. Évidemment qu'il y a un fonds antisémite majeur dans le régime de Vichy, on peut y revenir sur, sur cette question, mais ce qui guide le pouvoir à l'époque, c'est de démontrer que même en zone nord, l'administration française, la police française, a encore de l'autorité et peut faire les choses. Et c'est l'illusion incroyable de Vichy de considérer que bientôt ils pourront revenir en zone nord et qu'il faut prouver qu'ils ont encore la main sur l'administration du pays. Et ça conduit à ça, c'est-à-dire, comme l'a dit le président Chirac dans son discours du Valdiv, c'est l'État français, des fonctionnaires français qui ont été les complices des rafles et donc de l'irréparable et de l'horreur. Et c'est comme ça. Et De Gaulle l'avait d'ailleurs résumé en une phrase très simple, hein. Il avait dit deux choses de Pétain absolument terribles et justes. Il avait dit « Pétain est un grand homme qui est mort en 1927, le drame c'est qu'il ne l'ait pas su ». Et il a dit aussi « Quand on va de Bordeaux à Vichy, on va nécessairement de Vichy à Montoir et de Montoir à Sigmaringen ». Et la différence fondamentale, elle est dans la vision de départ. L'un se trompe sur la guerre et l'autre la comprend. Après, il y a les qualités. Politique dans l'exercice. Pétain, un peu comme les chefs d'entreprise que j'ai connus quand ils sont devenus ministres, considère qu'il n'y a rien de plus facile que la politique. Il n'y a rien de plus dur comme métier que le métier politique. Lui avait l'idée qu'il fallait qu'il commande à 4 personnes, qu'il commande à 4 personnes, qu'il elle-même commande à 10 personnes. Bref, qu'on pouvait gérer un pays comme une armée. C'était absolument n'importe quoi. Il considérait aussi qu'on pouvait mettre en place un régime contre-révolutionnaire, corporatiste, enfin c'est le régime de Vichy, à la fois dans son horreur et qui est résumé par une phrase d'une fiche des renseignements généraux qui lui remonte, où on dit « Les Français considèrent que votre régime, c'est bibliothèque rose, marché noir et terreur blanche ». Donc il se trompe à la fois sur ses qualités, il se trompe sur le régime, alors que De Gaulle, lui, va démontrer des qualités politiques exceptionnelles dans des conditions très difficiles. D'abord, de son parcours dans les années 30, moi j'ai pas mal travaillé dessus dans le livre, il va, même s'il se distancie de la Troisième République, reprendre les valeurs de la République à son compte. Ce qui fait qu'il va gagner deux atouts qui vont le sauver du grand affrontement avec Churchill. Les deux atouts, c'est le soutien de la résistance, toujours, et notamment de la résistance et des socialistes, puisque Blum va écrire une lettre magnifique à Churchill et à Roosevelt en leur disant « ce n'est pas vrai, ce n'est pas un apprenti dictateur, c'est le chef de la résistance et on se reconnaît en lui », et le soutien de l'opinion publique anglo-saxonne. Quand Roosevelt va vouloir plusieurs fois liquider De Gaulle, il va être obligé de reculer parce que son opinion publique ne va pas accepter qu'on puisse faire des deals avec le pire des collaborateurs, bien pire que Darlan, que Laval en l'occurrence Darlan, qu'on puisse soutenir Giraud et qu'on puisse vouloir liquider quelqu'un qui était moralement inattaquable comme De Gaulle. Donc il va tout de suite comprendre que cette guerre est une guerre tout autant militaire que politique et morale, et il va avoir tout de suite la bonne posture, république, résistance, et puis dans cette France qui a été quand même ravagé par le désastre de 40, qu'il faut garder une attitude forte vis-à-vis des alliés qui désormais méprisent la France. Roosevelt, c'est très intéressant. Roosevelt pensait qu'il parlait français, il le parlait un peu, et il admirait énormément la France comme énormément de monde, cette France qui avait gagné quasiment seule la Première Guerre mondiale. Et il l'a vu s'effondrer en quelques jours, et il en a gardé pour elle un mépris complet. Ce qui fait que, bon, peu importe qu'on s'entende avec Darlan, avec Pétain, avec Laval, ça n'avait pas beaucoup d'importance, la France n'existait pas pour lui. Même chose pour Staline. Quand on dit à Staline, la France, Yalta, etc., il dit, mais ne me parlez pas de ce pays qui a laissé passer les Allemands. Donc, à la fois, ce qui était juste chez le général de Gaulle et son génie, c'est d'avoir dit, je refuse qu'on puisse porter l'idée que la France n'est plus elle-même. Et donc, il va porter, à côté de ses valeurs républicaines et morales, l'idée que la France, il n'y a pas de question. La France est dans le camp des vainqueurs et elle doit être vainqueur aussi. Donc on retrouve toute cette alchimie chez De Gaulle, qui est ce génie politique, capacité à passer à l'acte, compréhension de ce qui se passe, et puis dans l'exécution, la compréhension qu'il n'y a pas de... On ne peut pas conduire de politique sans être calé sur des valeurs morales qui correspondent aux attentes de son temps, ce qui fait que cet inconnu complet, Malraux dira, on a su que le général de Gaulle était grand quand on a vu ses premières photos en 1944, donc inconnu complet en 1940, se retrouve comme étant en réalité, je vais y revenir, hein, le père fondateur du pays, bien plus encore qu'un personnage majeur de notre histoire. Donc c'est cette partie passionnante de cette leçon de politique où on comprend. J'ai pas voulu faire de manichéisme vis-à-vis de Pétain. J'ai voulu comprendre comment on glisse de l'erreur au crime, comment on s'enfonce ensuite par cette erreur de crime en crime jusqu'à arriver à son procès où il va se comporter en tant qu'homme avec énormément de dignité. Mais c'est un vrai procès. Je suis convaincu que le jugement, c'est-à-dire condamnation à mort pour intelligence avec l'ennemi et gracié par le général de Gaulle, est quelque chose qui était juste. Donc j'ai voulu comprendre comment on passe de Vichy, de Verdun, pardon, à Vichy, à la condamnation à mort. Après, il y a la leçon de France. Les régimes, évidemment, le pétainisme a été balayé par l'histoire, reste quand même... dans des moments difficiles, la remontée d'état d'esprit. Pétain, les choses étaient assez simples. Ça part de cette enfance extraordinairement malheureuse, de cette culture paysanne. Il a au fond de lui l'idée que l'homme ne peut pas tout, qu'il y a des moments où il faut se soumettre, accepter de se soumettre à des forces beaucoup plus importantes, et que la meilleure façon de faire les choses, c'est de faire primer le réalisme jusqu'au cynisme, attendre que l'orage passe, biaiser, faire des compromis jusqu'à que les rapports de force s'inversent. Ça lui a permis d'être le vainqueur de Verdun, ça l'a conduit au désastre de 40. Et on a encore en nous, on le voit, cette tentation parfois quand on se dit, bon, à quoi ça sert de vouloir maintenir par exemple un tissu industriel en France alors qu'on est 60 et quelques millions d'habitants, qu'on est confronté à des géants d'une taille qui est incomparable, la Chine, l'Inde, parlons pas des États-Unis, et donc de se dire, ben, encore quelques minutes, monsieur le bourreau, vivons comme on peut vivre. Donc cet état d'esprit reste fort, et il l'a symbolisé de manière incroyablement symbolique. De Gaulle, c'est les valeurs de Foch, c'est les autres valeurs, celles qu'on connaît bien, c'est-à-dire cette conviction que la volonté permet de tout renverser. C'est des choses aussi un peu plus subtiles. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action sans valeur. Et ce qui était formidable, et c'est pour ça que probablement on a aujourd'hui la nostalgie de De Gaulle, c'est que toutes ces actions étaient fondées sur des valeurs claires et compréhensibles, avec toujours ce rapport incroyable à la France. L'instant s'expliquait toujours pour lui par deux choses. On est dans un cycle de l'histoire. On ne peut pas comprendre ce qu'on est ou ce qu'on fait aujourd'hui si on ne sait pas d'où on vient. Et De Gaulle, c'est l'homme du progrès technique. Déjà comme militaire, il était obsédé par ça. Comme président, il le sera encore. La recherche, l'industrialisation, tout ça, c'était lui. Il considérait que la France ne peut pas être elle-même si elle n'est pas à la pointe du progrès technique. Donc il y a chez De Gaulle quelque chose qui est probablement fondamentalement adapté aux attentes d'aujourd'hui. Moi, ça m'a beaucoup frappé. L'anniversaire de l'appel du 8 juin et beaucoup de résonance cette année. 10 ans avant, beaucoup moins. C'est que probablement, dans les temps dans lesquels on est, on peut s'interroger, c'est quoi l'identité française? C'est quoi la France dans l'Europe? C'est quoi l'Europe balayée par ces puissances qui nous paraissent totalement inaccessibles? Est-ce que tout ça a encore un sens? Et celui qui était capable de donner de sens à des choses dans des moments comme ça, c'était fondamentalement lui. C'est pas par hasard qu'on regarde de plus en plus vers lui et qu'il y a eu cette commémoration aussi forte. Il y a aussi des choses qui sont assez formidables. Moi, je pouvais voir aussi du point de vue dans lequel j'étais il y a quelques années, c'est à quel point il a façonné la France moderne. Et par cette capacité toujours à fusionner le passé et le futur. Monarchiste et républicain, il a inventé quand même un truc absolument génial. L'élection du président de la République au suffrage universel, c'est la réconciliation de notre histoire. C'est l'instauration d'un monarque républicain. Lui qui savait bien que la France s'était créée dans la difficulté grâce à au vieil État capétien, il en a fait l'arme de la modernisation du pays. Il était plus que tout autre conscient qu'on est encore ce pays gaulois, donc incapable de s'entendre, et il a eu l'intelligence de reprendre les idées du Conseil national de la résistance et avec la sécurité sociale, qui est au fond une façon d'institutionnaliser la solidarité dans un pays qui est un pays de guerre civile, d'individualisme. Et puis j'ai consacré un long chapitre, son rapport avec Roosevelt l'a quand même beaucoup forgé. Sa distanciation vis-à-vis des États-Unis, elle aurait pu mille fois être justifiée par l'attitude inacceptable de Roosevelt à son égard, qui ne l'a jamais compris, qui l'a toujours traité comme un dictateur en puissance. Et en réalité, ce n'est pas ça. Ce que va comprendre de Gaulle à travers sa difficulté, Darlan, Giraud, Roosevelt et même Churchill, hein, qui le lâche pour soutenir Roosevelt, c'est que les Américains, qui sont une grande nation à l'intérieur, démocrate, état de droit, comprennent mal le monde et surtout sont capables d'un cynisme absolu quand ils sont engagés au plan international. D'où la nécessité qu'il a eue de dire, si les Américains déraillent, et ils ne déraillent pas toujours, quand il a été un allié quand il a fallu au moment des événements de Cuba, mais quand ils déraillent, il faut que la France ait une voix qui porte des valeurs que les Américains ne portent pas dans le monde. Et là, il y a un héritage qui est fondamental. On l'a vu sur l'Irak. C'est très intéressant. Sur l'Irak, Tony Blair et Chirac. Tony Blair, c'est l'héritage de Churchill. Peu importe que les Américains aient raison ou tort, de toute façon, nous, on suit. Et puis, Chirac, c'est l'héritage gaulliste dans toute sa clarté. Quand les Américains déraillent, il faut qu'il y ait une voix qui porte dans le monde la voix de la raison, la voix du droit et la voix de la justice. Et ça, c'est De Gaulle qui l'a forgé. Donc pour conclure, parce que j'ai été quand même vraiment long, moi ce qui me reste, c'est quand même le message personnel. J'ai fait attention quand j'ai écrit ce livre, parce que c'est des sujets qui sont quand même très sensibles. Ça reste quand même, moi je suis fondamentalement gaulliste, mais je voulais comprendre la réalité de Pétain. J'ai eu un moment dans la conclusion, dans l'introduction, la phrase « on a tous en nous » du De Gaulle et du Pétain, je ne l'ai pas écrite comme ça, je le pense quand même fondamentalement, et qu'on a tous face à l'adversité, au fond, la tentation de se recroqueviller sur soi, d'adopter le réalisme, du réalisme, qui peut glisser ensuite vers le cynisme. On mesure tous aussi la difficulté d'affirmer les choses de ce que l'on est, ce que l'on veut, ses ambitions dans les moments difficiles. Et ce qui est assez intéressant et passionnant, c'est le message paradoxal mais très optimiste de ces deux personnages, c'est qu'en fait, plus on cherche à se protéger, plus on se met en danger, c'est le message Pétain, plus au contraire on a le courage de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on est, plus on se donne des chances. Et je n'ai pas réussi à formaliser dans le livre ce que je voulais dire, et c'est une critique dans la tribune de Genève qui l'a résumé mieux que je pouvais le faire, dont le titre était « Le fou, c'est le sage, c'est le fou ». Voilà.